Un grand merci à vous et à Philippe Auvergnon pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que je suis là parce que bah aussi pour échanger, pour apprendre, etc. Voilà, surtout avec cette double, en fait, avec cette double voix plus historique, après plus contemporaine sur le sujet. Alors, le sujet donc aujourd'hui, c'était sur l'inspection, enfin inspecter l'inspection du travail, en tout cas dans de la France d'outre-mer dans les années 1940-50, à savoir si c'était une mission impossible d'inspecter à ce moment-là. En réalité, c'était pour se focaliser surtout et interroger les difficultés que pouvait rencontrer cette jeune inspection à l'époque, avec en réalité deux questionnements qui sont un questionnement à savoir est-ce que ces difficultés sont pas assez représentatives et ne nous permettent pas d'assez bien comprendre quelles sont dans la pratique les ambiguïtés en fait de la politique ultramarine à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et qu'on voit déjà assez bien dans la conférence de Brazzaville, et d'autre part, de s'interroger en fait sur la nature même de cette inspection, en allant peut-être jusqu'à se poser la question de savoir est-ce qu'il ne s'agit pas d'une inspection anticoloniale, anticolonialiste, dans la mesure où elle s'inscrit en rupture, a priori en tout cas, en rupture avec une politique du travail qui serait fondée sur le travail forcé, l'inégalité, etc. Alors, là, comme je fais un peu comme c'était un format séminaire, j'ai mis j'ai interrogé un petit peu présenté un petit peu les différentes difficultés de façon un peu descriptive, je m'en excuse, mais donc voilà, ça me semblait peut-être un peu, ça me semblait être plus clair, on va dire, pour le déroulé de la présentation. Alors, voilà, grosso modo, la problématique et pourquoi s'intéresser en réalité à cette inspection à ce moment-là, sachant que c'est un sujet qui est à la fois traité et pas traité. C'est un sujet qui est traité parce que l'inspection du travail, c'est un acteur, soit par les inspecteurs eux-mêmes, soit à travers les rapports, qu'on retrouve beaucoup dans l'historiographie, que ce soit en histoire, par exemple avec Cooper, Fall, etc., en histoire du droit, ben justement avec Jean-Pierre qui est là, voilà, ou d'autres travaux, qui est exploité d'une certaine façon, mais par contre, qui n'a pas été étudié en tant qu'acteur lui-même, l'inspection en tant qu'acteur. Et alors, pourquoi ça me semblait important? Parce que, d'une part, ça dissimule en quelque sorte le rôle qu'elle a joué, et d'autre part, ça dissimule aussi le fait qu'il y a existé du droit du travail qui a commencé à être appliqué dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant la promulgation du Code du travail d'outre-mer. Ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve dans une partie de l'historiographie africaine ou européenne cette idée que le droit du travail, il a commencé à être appliqué en Afrique et dans d'autres territoires ultramarins qu'à partir du moment où le CTTOM a été promulgué, le Code du travail d'outre-mer, donc en 1952, alors qu'en réalité, quand on se focalise sur l'inspection du travail et ce qu'elle a fait, on se rend compte que les bases étaient jetées. Alors évidemment, elles étaient jetées de façon très différente d'un territoire à l'autre, mais que cette inspection a fait un travail assez important. Alors, cette inspection, elle s'est heurtée à des difficultés qu'on pourrait dire d'une part structurelles, des difficultés qui sont structurelles dans le sens que ce sont des difficultés en relation avec son statut même, avec l'administration dans laquelle elle est finalement insérée. Des difficultés structurelles, pour bien comprendre, il faut évidemment comprendre d'où on part. C'est-à-dire que cette inspection du travail outre-mer, elle est en quelque sorte elle est en rupture avec la période précédente, parce que l'idée a été d'en faire une inspection véritablement indépendante au sortir de la guerre. C'est-à-dire qu'auparavant, en fait, à partir, on va dire, du début du XXe siècle, vous aviez des inspecteurs du travail qui existaient, mais c'était en réalité des membres de l'administration coloniale qui avaient une mission d'inspection. Donc évidemment, ces membres de l'administration coloniale avaient... Enfin, faisait un travail qui était extrêmement limité, d'autant plus que c'est une période où le travail forcé existe, que l'administration est le principal fourvoyeur de main-d'œuvre, que ce soit au niveau public ou au niveau de privé, on va dire, ce qui fait que, en réalité, ces pauvres inspecteurs qui jouaient ce rôle-là, ils continuaient évidemment, ils n'étaient pas du tout indépendants, ils étaient soumis à la hiérarchie du gouverneur, etc. Alors, ça ne veut pas dire, il ne faut jamais généraliser, évidemment, on trouve des témoignages en Côte d'Ivoire, ou même dans d'autres territoires, en Indochine, etc., de quelques administrateurs qui jouaient donc ce rôle d'inspecteur du travail et qui ont tenté de défendre les salariés, mais avec un résultat nul. Alors, voilà où on en est avant la guerre. Évidemment, en 44, ça va être une mini-révolution quand le décret du 17 août 1944 va créer une inspection du travail qui est censée être une inspection qui est une inspection indépendante. Alors, première chose, ce décret est important parce qu'il va séparer, en fait, les questions de travail et les questions sociales de la puissante direction des affaires politiques qui fait un peu la pluie et le beau temps au niveau colonial. Et en plus, parallèlement, il va donc confier toutes ces affaires-là à une inspection générale du travail qui sera à Paris auprès du ministère de la France d'Outre-mer et avec des inspecteurs qui ont ce fameux statut qui est un statut qui est censé être indépendant. Indépendant, ça veut dire en fait indépendant du gouverneur général. Je disais que cette indépendance, elle était nécessaire parce qu'elle s'accompagne en fait d'une réforme profonde, hein, qui est censée être celle du droit du travail et de la mise en place d'une codification qui va prendre des années en réalité à être promulguée. Donc, mettre en place un droit nouveau qui est censé être réformiste, assez proche du droit du travail français, il faut donc des hommes indépendants du reste de l'administration coloniale. Donc, on voit bien l'ambition. Premier problème, première difficulté, c'est que à peine indépendants, très rapidement, l'indépendance de ces inspecteurs, va être remise en cause. En mai 1946, déjà un décret les rattache de nouveau au gouverneur général. Et puis en 49, un arrêté, au contraire, les remet, bon, pour des raisons politiques sur lesquelles on pourra revenir, mais les remet les libère en quelque sorte et les remet sous la férule de leur direction qui est à Paris. Outre ces problèmes de statut, hein, et qui ne cesseront jamais, c'est-à-dire que leur indépendance, elle va être mise en cause du début à la fin, on va dire, de cette période, hein, jusqu'aux indépendances. Outre ça, ils ont des problèmes de moyens, bon, qui est propre à l'outre-mer en général, en plus justement pour une jeune administration, des moyens limités puisque même s'ils sont créés en 44, il faut attendre 46 pour voir s'installer une direction véritablement à Paris, qu'elle est censée avoir plusieurs bureaux, sont censés indépendre, etc., et qu'en réalité, ces bureaux, il n'y a personne dedans jusque dans les années 50, qu'en 1946 seulement, pareil, on a la première inspection enfin qui s'organise en AOF, on commence à envoyer quelques inspecteurs, un aux Nouvelles-Hébrides, bref. Et même le reste, de toute façon, le nombre d'inspecteurs, de personnel, en fait, tout confondu, parce que ce sont des inspecteurs aussi qui sont en général à Paris, et de 35 en 1948, une soixantaine en 52, ça continue à augmenter, en 52, oui, ça continue à augmenter jusqu'à la fin de la période, mais doucement, mais ça reste évidemment dérisoire par rapport à l'étendue des territoires qui dépendent encore de la France. Je dis des territoires qui dépendent de la France, mais en réalité, il y a deux ensembles qui ne rentrent pas dans le portefeuille, entre guillemets, de l'inspection de la France d'outre-mer, c'est le Maghreb et l'Indochine. Alors, ça, c'est pour les difficultés qu'ils rencontrent finalement avec, on va dire, leur propre organisation et en lien avec les ministères, etc. Mais évidemment, ils ont d'autres difficultés avec l'administration, là, sur place. Parce que, évidemment, le gouverneur, en général, voit d'un assez mauvais œil le fait qu'on leur retire, et d'ailleurs, ça concerne d'autres domaines, à la sortie de la guerre, une partie de leur pouvoir. Hein. Et comme l'administration reste encore très impliquée dans les questions de répartition de main-d'œuvre, etc., elle voit d'un assez mauvais œil la liberté d'action des inspecteurs. Donc là aussi, bon, ça pose la question de la généralisation, parce qu'il est vrai que Lucrèce Guelfi, qui est la directrice de l'inspection entre 48 et 56, dit qu'elle a beaucoup d'opposition de la part des gouverneurs, etc. Mais quand on rentre dans le détail des témoignages des inspecteurs, on se rend compte que, bien sûr, c'est plus compliqué. Certains gouverneurs les soutiennent. Au contraire, ce sont quelquefois les hauts commissaires qui cherchent à récupérer le pouvoir sur les inspecteurs, etc., et à les commander. Enfin bon, bref. Voilà. Évidemment, ils ont aussi beaucoup de problèmes avec leurs collègues des autres corps administratifs, parce qu'il est assez mal vu qu'un nouveau corps arrive. En plus, c'est un nouveau corps qui a été mis au même niveau que les gouverneurs, hein, mais ça ne cessera de descendre. Après, ils seront assimilés aux inspecteurs de l'agriculture. Bon, mais au départ, ils commencent avec, ils sont l'équivalent de gouverneurs, donc une des formes de jalousie, évidemment, qui se traduit sur le terrain par des problèmes liés au salaire, par des problèmes de logement, par des problèmes de préséance, etc. Enfin, il y a pas mal de difficultés de ce point de vue-là au quotidien. Et puis, leur indépendance, je vous le disais, même au niveau de l'administration, ne va jamais cesser d'être contestée, au point qu'en 1954, l'inspecteur des colonies Truitard fait un rapport sur l'inspection des colonies et dit que bah, il faudrait bien qu'il soit de nouveau rattaché au gouvernement général, ce qui évidemment veut dire qu'ils perdraient leur indépendance. Et évidemment, Guelfi répond en disant que le Code du travail quand même a entériné l'indépendance normalement des inspecteurs. Alors voilà pour, disons, des difficultés qui sont véritablement structurelles, un peu techniques, mais enfin, qui ont des implications quand même au quotidien, on va dire. Ensuite, les difficultés qui sont les leurs sont des difficultés qui sont liées à leur mission de contrôle sur le terrain. Alors, ces difficultés liées à leur mission de contrôle, elles sont liées aussi à l'étendue, évidemment, de leurs compétences, à la multiplicité des acteurs auxquels ils sont confrontés. Alors, c'est vrai de l'inspection du travail, de toute façon, aussi en Méditerranée, mais c'est accentué outre-mer, parce qu'il faut savoir que ces inspecteurs du travail d'outre-mer ont des compétences aussi, pas sur le droit du travail, mais aussi dans toutes les matières sociales, ce qui explique d'ailleurs que en Afrique, cette conception était reprise, mais aussi tout simplement dans les territoires d'outre-mer, jusque dans les années 80, les inspecteurs du travail outre-mer avaient ces compétences élargies en matière sociale. Multiplicité des acteurs aussi, parce que il y a les acteurs traditionnels, représentants des syndicats, entreprises, etc., procureurs, etc. Mais ils sont aussi confrontés à des institutions originales, comme les tribunaux du travail, aussi aux commissions consultatives qui jouent un rôle très important. Et puis, se greffent tous ces acteurs qui vont être créés entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les indépendances, toutes les assemblées locales, etc., qui ont leur mot à dire, en fait, même si c'est que sous la forme d'avis, qui ont leur mot à dire sur les questions du travail. Pour vous donner un petit peu une idée de ce que peut être leur travail au quotidien. Alors, j'ai un peu simplifié en disant qu'il y avait des inspecteurs du travail. En fait, il y a des inspecteurs généraux du travail qui normalement commandent un territoire assez vaste, hein, un territoire assez vaste, et puis des inspecteurs régionaux, et il y a des inspecteurs adjoints, en fait, ou des adjoints d'inspecteurs selon les territoires. Les inspecteurs généraux, ce sont souvent des administrateurs qui sortent de l'ENFOM, qui sont déjà quand même un petit peu avancés dans la carrière. Les inspecteurs régionaux peuvent être d'anciens inspecteurs du travail ou des gens qui sont montés tout seuls dans l'administration coloniale, ou alors des inspecteurs qui sortent de l'ENFOM mais qui sont assez jeunes. Et enfin, les adjoints sont en général des Africains. Ils ont des missions assez différentes. Les inspecteurs généraux, ils sont confrontés surtout à des questions politiques. Et pour vous donner un petit exemple, en 1950, on a dans un rapport qu'il fait à Guelfi, l'inspecteur général Desbord lui explique ce qu'il vient de faire. Et en bref, il vient de résoudre, enfin, il a essayé de participer à la résolution d'une grève, puisqu'on est dans une période, évidemment, à partir de 1946, où les grèves vont être de plus en plus intenses, hein, du côté des cheminots, etc., avec un pic, hein, dans les années 1950 jusqu'à la promulgation jusqu'à la promulgation du code. Et donc, il écrit, mais ça va vous montrer un petit peu les questions auxquelles il est confronté de son côté. Après, on verra que c'est un petit peu différent du point de vue local, des difficultés locales. Mon court séjour au Dahomey s'est bien passé, puisque la grève a pu être résorbée au mieux avec un déchet de 13 licenciés, ainsi que je vous en rends compte. Hein. Mon retour a été interrompu par la demande du Auxerre de régler à Abidjan le recasement du personnel des WARF qui est supprimé après l'ouverture du port d'Abidjan, 1500 personnes environ. Et là, on passe à des questions plus politiques. La question de la main-d'œuvre Mossi en Côte d'Ivoire me crée de vifs soucis, surtout depuis que le gouverneur de la Côte d'Ivoire laisse la bride sur le cou à un syndicat de planteurs préoccupé uniquement de la descente de la main-d'œuvre et pas de leur rapatriement, donc, sachant qu'il leur a été attribué une subvention de 20 millions à ce syndicat qui est dirigé par un parent de M. Pleven. Là, évidemment, rentre en plein le problème politique puisqu'à ce moment-là, Pleven était président du Conseil. Voilà. Donc, on voit un petit peu les choses à gérer. Bon, après, il demande à ce que soit créée une inspection, etc. Voilà. Les inspecteurs régionaux, on va le voir juste après, eux ont des tâches qui sont en fait des tâches plus de terrain. Ils font des tournées hein, pour essayer d'aller voir les employeurs, etc., d'une part. Et d'autre part, leur quotidien, c'est de recevoir à l'inspection, de recevoir évidemment les gens qui viennent pour des conflits liés au travail. Alors, donc dans ces difficultés, je disais, il y a les relations donc, politiques, enfin, les relations avec certains syndicats, on pourra revenir aussi dessus, ou avec des intérêts économiques. Il y a le fait aussi que ces inspecteurs peuvent être confrontés à un droit sur le terrain qui est inappliqué. Hein, par exemple, Jacques Larue, quand il arrive au Soudan en 1950, il se rend compte que la réglementation assez contraignante qui existe en matière de droit du travail, du moins ce qui existe depuis 1926, n'est pas appliqué. Déborde quand il est au Togo, au moment où il y a une grève, l'avocat général vient lui demander comment faire dans ces cas de grève, etc., parce qu'ils n'arrivent pas à faire des conventions collectives, et il se rend compte qu'effectivement, les décrets de mars 37 sur les conventions collectives n'ont jamais été promulgués au Togo. Donc, il y a cette question, évidemment, du droit qui est inappliqué, et il y a la question aussi du droit qui est difficilement applicable. Et là, on rentre dans plutôt les témoignages des inspecteurs régionaux. Alors, ce qui est intéressant dans ces témoignages des inspecteurs régionaux, c'est qu'on voit bien comment finalement, d'un côté, on a le droit qui est un droit qui est en grande partie inspiré de la métropole, fait pour un territoire qui a une histoire, évidemment une organisation sociale particulière, et comment avec quelques adaptations seulement, on essaie finalement de l'appliquer à des territoires qui sont organisés de façon différente, qui ont des catégories différentes et où les gens circulent différemment. Pour vous donner juste trois petites illustrations qui ont été données par un inspecteur d'ailleurs récemment qui s'appelle Bernard Dumont, qui était inspecteur du travail au Soudan au tout début des années 50, à Ségou exactement. Bon, il a cité un bon nombre d'affaires et dans nos précédents témoignages aussi, parce qu'en fait, on travaille en équipe avec lui. Bon, après, pour vous donner un premier exemple, c'est un exemple qui concerne le cuisinier d'un Touareg. Le Touareg va avec son cuisinier à la Mecque et là-bas, il fait don du cuisinier à l'émir de la Mecque. Le cuisinier arrive à partir au bout de 10 ans, retourne à Ségou et il vient réclamer ses 10 ans de salaire. Alors, et malheureusement, ni l'inspecteur ni le juge ne vont arriver à régler cette affaire, qui est d'ailleurs proche d'une affaire de droit international. Mais bon, bref. Autre exemple, là aussi, qui interroge évidemment les liens de dépendance et comment les encadrer dans le droit français. Qui est au moment de sa tournée, enfin lors d'une de ses tournées, Bernard Dumont donc visite une boutique locale à Tombouctou qui appartient à une famille marocaine depuis le XVIe siècle. Mais il se rend compte qu'en fait le gérant de cette boutique appartient lui aussi à la famille marocaine et donc en réalité il n'est pas payé. Et de la même façon, il ne va pas réussir à résoudre en fait cette question du gérant hein, qui ne continuera pas à être payé, mais il arrive par contre à lui faire faire des fiches de paye pour, enfin des bulletins de salaire pour les autres salariés. Et donc, bon, d'une certaine façon, il arrive un petit peu à faire rentrer le droit français. Enfin, le droit français, le code du travail d'outre-mer, mais qui est très inspiré du droit français. En fait, il faut voir que si à chaque fois ces exemples sont en relation là, avec les bulletins de paie ou le fait d'être rétribué, etc., c'est parce que quand il est arrivé à Ségou, vu l'ampleur de la tâche, cet inspecteur s'est dit que, il fallait qu'il se concentre sur deux missions, sinon il n'arriverait pas de toute façon à faire quoi que ce soit. Et donc pour lui, l'application du droit du code du travail, c'est faire faire des registres employeur et faire faire des bulletins de paie. Et ça, déjà, ça lui prend tout son temps, sachant qu'il a un adjoint qui, d'ailleurs, va être embauché par des gens pour faire les bulletins de paie. Parce qu'évidemment, personne ne sait encore faire un bulletin de paie, etc. Et d'ailleurs, il dit que quand il commence sa mission, les employeurs européens se moquent de lui en disant, de toute façon, personne ne sait lire à quoi ça sert un bulletin de paie. Mais c'est pour vous montrer l'importance, évidemment, de la tâche à accomplir, même si elle a commencé en réalité dès 44. La troisième affaire, elle montre comment les syndicalistes africains interagissent aussi et finalement s'emparent aussi des instruments français. Tout en étant dans une perspective anticolonialiste. En fait, un jour, Bernard Dumont, donc toujours lui, voit arriver à l'inspection Lazare Koulibaly, hein, qui est un syndicaliste célèbre, avec 15 bergers peuls. Alors pourquoi? Parce qu'il se trouve que le puissant office du Niger avait incité certains Africains, en fait, là, des Mossi et des Bambara, à s'organiser au sein de coopératives de village et leur avaient prêté du cheptel pour ça. Les Bambara avaient laissé le cheptel à des Peuls pour qu'ils s'en occupent, puisque ils sont connus pour leur savoir-faire pastoral. Et donc, les Peuls s'en sont occupés, etc., en tant que bergers. Et donc, poussés par Lazare Koulibaly, ils viennent en réalité demander des congés payés. Donc voilà, là on voit comment les systèmes finalement résistent ou peut-être pas s'hybrident, mais en tout cas se rencontrent dans des logiques relativement différentes. Alors, dernière difficulté liée au terrain, c'est tout simplement de connaître le droit et son aggiornamento. Dans la mesure où c'est déjà une difficulté en France en réalité, mais évidemment elle est accentuée outre-mer par le fait que, évidemment, il y a des questions de distance d'une part, hein, qui ont toujours existé de toute façon, mais il y a le fait que le code, même alors avant le code du travail d'outre-mer, les textes sont très épars. Après le code du travail d'outre-mer, les articles changent beaucoup. C'est pour ça que j'avais envoyé cette petite photo qui était tout à fait enfin, presque une œuvre d'art d'une certaine façon, mais qui était intéressante parce qu'elle montre quelque chose. Quelque chose, c'est que ce mini-code, il a appartenu à un inspecteur qui s'appelle Edgar Reynaud. C'est un tout petit code du travail qui doit faire 10 cm. Et à l'intérieur, il y a énormément de collage parce qu'en fait, à chaque fois qu'un article changeait, il a collé le nouvel article. Ça montre quoi? Ça montre que l'administration n'était pas très au fait de la praticité et des questions de l'aggiornamento du droit qui s'applique, parce que qui lui a fourni ce mini-code et qui s'est débrouillé après pour les changements d'articles, c'est lui, mais qui lui a fourni ce mini-code, c'est en fait la CGT. Et parce que les syndicats étaient sur ça très en avance, même sur la connaissance du droit, beaucoup plus en avance en tout cas que les services dédiés au sein de l'administration. On pourra revenir dessus, mais c'était simplement voilà, pour montrer aussi cet élément. Enfin, dernière difficulté, type de difficulté, catégorie, elle est liée cette fois-ci, c'est une difficulté juridique, elle est liée à la mission de fabrication du droit des inspecteurs. Sachant qu'ils ont une mission, bon, qu'on retrouve aussi, pareil, chez les inspecteurs du travail en métropole, puis qu'on retrouvera aussi outre-mer. Mais pour aller très vite, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est là l'inspection du travail, même avant 1952, va beaucoup agir essentiellement le droit social, à tel point on est dans la fabrication du droit au-delà de ce qu'est leur mission, et quelquefois de façon assez amusante pour un juriste, parce qu'ils ont été accusés même de remplacer le législateur. Et on le voit à propos d'une affaire que je vais vous résumer rapidement, qui est qu'en fait, Lucrèce Guelfi va, bon, par un biais, voilà, ben, ce n'est pas la peine que j'en parle là, mais va faire en sorte que soient créées par décret du gouverneur des allocations familiales spécifiques au Moyen Congo en faveur des travailleurs africains. Et en fait, ce décret est attaqué par le syndicat des commerçants importateurs et exportateurs de l'AEF, qui dit que c'est au pouvoir législatif et non au pouvoir exécutif. Enfin, c'est en tout cas de la compétence du pouvoir législatif, pardon, et non du pouvoir exécutif, et que évidemment, ça devait passer devant l'Assemblée nationale. Et le ministère reconnaît devant le Conseil d'État, dans un mémorandum, que c'est vrai. Mais que, vu l'incurie du pouvoir législatif et le fait qu'il s'agissait d'enfants, etc., enfin de protection de l'enfant, voilà, de leur bien-être, il est tout à fait normal que le pouvoir exécutif, dans ces cas, remplace le pouvoir législatif. C'était pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. Alors, en conclusion, cette inspection, elle est donc particulièrement intéressante au point de vue de l'histoire administrative, parce que c'est une forme d'administration de rupture, ce qui est assez, ce qui n'est pas commun, en particulier en situation coloniale. On peut même dire qu'elle est anticolonialiste, puisqu'elle est clairement, elle s'inscrit clairement dans de nouvelles logiques, hein, réformistes, contre le travail forcé, pour les droits des travailleurs, etc. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elle est révolutionnaire. En réalité, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient, remplacer une idéologie par une autre, parce que l'idéologie, clairement, qui est celle de l'inspection, et de sa directrice, et des ministères, en tout cas, jusqu'en 1956, c'est clairement l'idéologie démocrate chrétienne qui, avec elle, transporte toute une partie, enfin toute une vision de ce que doit être, de ce que doit être le monde du travail, hein, la European Way of Life en quelque sorte, de la place de la femme aussi et de ses droits, etc. Donc, en réalité, c'est encore finalement essayer d'imposer une forme de logique exogène, même si elle est très différente de la logique coloniale. Et d'ailleurs, c'est en approfondissant tout ça que, dans leur rapport, que les inspecteurs du travail vont créer des nouvelles catégories, par exemple, en termes socio-économiques, puisque c'est à ce moment-là qu'ils commencent, surtout à la fin des années 1950, on va dire vers 56-57, hein, qu'ils commencent à prendre compte d'autres types de salariés que ceux qui étaient pris en compte jusqu'à présent, notamment les agriculteurs, d'autres types, pardon, de personnes qui travaillent, autres que ceux qui étaient pris auparavant, comme les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, surtout les travailleurs familiaux non rémunérés. Et finalement, à ce moment-là, on passe, avec ces outils statistiques, on passe à un autre fonctionnement de ce qui se passait avant, pendant la période coloniale. On passe aux bases, on va dire, d'une forme de développementalisme. D'ailleurs, le mot existe déjà à la sortie de la guerre, avec finalement les études socio-économiques ne servent plus aux questions de production. Maintenant, ils servent aux questions de travail socio-économique, à la création de catégories, comme par exemple qui vont préfigurer le secteur qui est ensuite dénommé le secteur informel à partir du début des années 70. Et là, on est clairement dans un basculement qui est plus général, c'est-à-dire qu'avant, les savoirs étaient essentiellement sur les populations des savoirs ethnologiques, et là, on passe véritablement à des formes de savoirs socio-économiques. Véritablement, on peut parler de sociologie, et d'ailleurs qu'incarnent des personnages comme Balandier ou d'autres personnes. Merci, pardon.